Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, le magazine qui passe tous les jours de la semaine très tôt, le matin à la radio ou quand vous voulez, si vous voulez l'écouter en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible sur l'application de Radio France par exemple, ou encore en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, avec ce matin la prise de son Élise Le. Et tous les mercredis, c'est l'actu ciné dans le Réveil culturel. Aujourd'hui, Cap sur Amiens, où se déroule en ce moment même jusqu'au 23 novembre le Festival de cinéma international, 39e édition, avec un beau programme, des invités de prestige, l'Espagne en invité d'honneur et un hommage au maître du cinéma, Luis Buñuel. Son ami et complice Jean-Claude Carrière est notre invité ce matin. Donc avant de prendre le train pour Amiens, il viendra évoquer l'esprit surréaliste de l'auteur d'Un chien andalou. Mais puisqu'on a la chance d'avoir Jean-Claude Carrière ce matin, on lui demandera aussi de nous parler de son autre ami, le Tchèque, puisqu'il est né à l'époque de la Tchécoslovaquie, Miloš Forman, à l'occasion d'une rétrospective. Miloš Forman, quatre œuvres de jeunesse, c'est-à-dire ses films réalisés dans son pays avant l'exil aux États-Unis et qui ressortent en version restaurée. Il s'agit de d'Audition, de L'As de pique, Les amours d'une blonde, bien sûr, et Au feu les pompiers. Buñuel, Forman, par Jean-Claude Carrière, c'est un beau réveil culturel que celui de ce mercredi 20 novembre 2019.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Jean-Claude Carrière.
Buenos dias.
Voilà, ravi de vous. Vous êtes en forme?
Oui, ça va à peu près pour mon âge. Je suis relativement bien.
D'autant plus que vous avez une actualité très très chargée.
Oui.
Il y a quelque chose qui me dit que vous n'arrêtez jamais d'écrire et de travailler.
Si, j'arrête, bien sûr que si. Mais je travaille à mon rythme et j'ai toujours aimé travailler et surtout, on m'a toujours proposé des choses intéressantes ou bien les matières, par exemple l'Espagne et Buñuel, quand on m'a proposé de travailler avec lui, évidemment ça ne se refuse pas.
Comment vous l'avez rencontré justement, puisqu'on va parler de...
Je l'ai rencontré au Festival de Cannes, à un déjeuner. Je suis même pas allé au festival, directement à son hôtel, et je suis rentré l'après-midi. Il cherchait un scénariste français pour adapter Le journal d'une jambe de chambre. Mmh. Et quelqu'un qui connaisse évidemment un peu le cinéma. C'était mes débuts, j'avais fait juste Le Soupirant avec Pierre Etex, et travaillé un peu avec Tati. Et...
Ça c'est pour le cinéma, vous aviez déjà publié quelques romans.
Oui, quelques romans, oui, bien sûr. Oui. Voilà, on s'est très bien entendu au cours de ce déjeuner, on avait tous les deux à peu près la même... vision. Je ne sais pas quels sont les autres jeunes scénaristes qu'il a reçus, mais 8 jours après, j'apprenais que je partais pour Madrid. Ça a été la date de ma vie, évidemment.
C'était en 1964, et c'est bien de le rappeler, Jean-Claude Carrière, parce que moi-même, je pensais que vous n'aviez collaboré avec Buñuel que pour ses 3 derniers films, c'est-à-dire cet obscur objet du désir, son ultime chef-d'œuvre réalisé en 77, inspiré du roman de Pierre Luys, La femme et le pantin. Et avant, c'était Le fantôme de la liberté en 74, et son ouverture sur le tableau de Goya, on s'en souvient, tout le monde s'en souvient. Et puis, Le charme discret de la bourgeoisie. En fait, non, vous avez coécrit les scénarios et travaillé avec... Buñuel, depuis les années 60, puisque vous avez fait, effectivement, vous venez de le dire, la première fois que vous collaborez avec lui, c'était en 64 pour Le journal d'une femme de chambre, après le roman d'Octave Mirbeau, et puis après Belle de jour, là aussi c'est une adaptation d'un roman de Joseph Kessel, et vous avez même travaillé avec lui pour La Voie lactée. Donc effectivement, 6 films.
6 films, oui. 6 films et un livre, Mon dernier soupir, que nous avons écrit tout à fait à la fin, quand il n'avait plus la force physique de tourner. Je lui ai proposé de faire un livre, il a été assez réticent au début. Alors j'ai écrit de moi-même un chapitre, en disant « Je, Buñuel ». Il a été séduit, et nous nous sommes mis au travail sur Mon dernier soupir, qui s'est vendu dans le monde entier, et qui a été un grand succès, même en Espagne, ce qui l'a enchanté dans ces dernières années.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde du cinéma et dans l'univers de Buñuel, Jean-Claude Carrière, parce que vous avez commencé comme romancier?
Ma première rencontre a été avec Jacques Tati, qui cherchait quelqu'un pour tirer des livres, faire ce qu'on appelle de la novélisation, un mot affreux, des vacances de Monsieur Hulot et de mon oncle. Plusieurs ont fait des essais, j'ai été choisi, par bonheur. Donc j'ai rencontré Tati, et chez Tati, Pierre Etex. Et c'est avec Pierre Etex que nous avons commencé, mais j'avais déjà 29 ans. Je fais partie de la génération des gens qui ont passé 29 mois sous les drapeaux, dont la moitié en Algérie. Et nous avons commencé par deux courts-métrages, puis Le Soupirant, qui a été un très grand succès. À partir de là, j'ai fait le journal d'une femme de chambre. Je crois que jusqu'à hier matin, je n'ai pas encore arrêté.
Et quand vous écrivez Jean-Claude Carrière pour des réalisateurs très connus, vous vous mettez à leur service.
Je travaille avec eux, toujours.
C'est-à-dire
que travailler avec Buñuel pendant 20 ans, consistait à se séparer du monde, à aller dans un endroit retiré, face à face, uniquement sans amis, sans femme, pendant le temps qu'il fallait, jusqu'à ce qu'on ait une première version qui nous paraissait convenable du script. On se séparait pendant 2 ou 3 mois, et on se revoyait pour travailler à une seconde, une troisième, etc. Pour Le Charme discret de la bourgeoisie, il y a eu 5 versions différentes, ça a duré 2 ans. Donc c'est un vrai travail, très assidu, très concentré, avec quelqu'un en face de vous, qui est un monument du cinéma. Vous êtes comme en finale des Jeux Olympiques, hein. Il y a pas, vous devez donner tout ce que vous avez. Pour certains films, comme Le Journal d'une femme de chambre, il s'agit d'une adaptation d'un livre qui existe déjà, Belle de jour aussi. Pour d'autres, comme Le Charme discret, de scénarios dits originaux, où il n'y a rien. Alors de quoi partons-nous? Alors chacun propose un départ jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose qui nous accroche tous les deux. Et puis on avait l'un sur l'autre un droit de veto. Ce qui est terrible pour un jeune scénariste, d'avoir un droit de veto sur Buñuel. C'est-à-dire que Buñuel me proposait quelque chose, j'avais le droit de dire non. Non seulement le droit, mais le devoir, si ça ne me plaisait pas. Et nous avons travaillé comme ça, très amicalement.
Et vous avez dit non pour Buñuel ?
J'ai dit non souvent, oui, bien sûr, non, pour telle ou telle raison. Ensuite, il fallait expliquer, bien sûr, pourquoi. Mais ça a pu m'arriver. Et lui aussi, bien entendu, à mes propositions.
Quand vous écrivez pour le cinéma, pour un réalisateur, est-ce que pour vous, il faut se mettre à la place du réalisateur ?
Un scénariste doit absolument connaître la technique du cinéma. Il doit absolument savoir comment ce qu'il écrit va devenir un film. Si c'est possible, combien de temps ça prendra, combien ça coûtera, etc.
Vous l'avez appris avec Pierre-Etex ?
J'ai appris dès le début avec Pierre-Etex. Dès les courts-métrages que nous avons fait ensemble, le second d'ailleurs aux anniversaires a eu l'Oscar.
Mais est-ce que c'est le même métier, écrire pour le cinéma, écrire pour le théâtre, et puis être romancier et écrire ?
Bien sûr que non. Pour le cinéma, il faut absolument connaître la technique cinématographique. Et il faut avoir. Moi, j'ai été Perchman, j'ai été monteur, j'ai même monté des films que je n'avais pas écrits. Donc, je connais, je serais capable de manier une caméra. J'ai fondé la FEMIS, que j'ai présidé pendant 10 ans, donc j'ai dû passer partout. Ça, c'est absolument indispensable. La technique au théâtre, c'est différent, parce qu'il n'y a pas un aspect technique aussi impressionnant et aussi imposant. Vous voyez. Donc là, on peut proposer des improvisations de tout ordre avec une troupe. J'ai travaillé 34 ans avec Peter Brook, donc ça, j'ai une grande expérience de ce genre de travail. J'alternais théâtre, cinéma, un livre de temps en temps, etc.
Alors,
j'ai été attiré par toutes les formes d'écriture que le XXe siècle a inventé. C'est le premier siècle, comme je le dis dans l'atelier. C'est le
premier livre qui sort chez Othilde Jacob, oui, et on en parlera bien sûr.
C'est le premier siècle qui a inventé de nouveaux langages. Si on était à la fin du XIXe, on ne pourrait parler que littérature et théâtre. À partir de là, cinéma, parlant, puis radio, puis télévision, puis les nouvelles images de synthèse, puis tout ce qui s'est passé par la suite, le numérique, toutes ces nouvelles techniques exige un nouveau langage. C'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Il faut savoir parler numérique. Il faut savoir comment ce que vous écrivez va pouvoir ou pas se faire. Combien ça va coûter ou pas, si c'est possible ou pas, etc.
C'est frustrant très, plutôt par rapport
c'est
au
roman. C'est pas frustrant,
c'est
absolument pas. Non, par rapport au roman, non. Le roman, on est tout seul, évidemment. On est son seul juge.
Et on peut tout dire.
On est en grande liberté. On peut écrire. Aller dans le passé, dans le futur, c'est pas toujours possible dans le cinéma. Il y a un grand mystère dans le cinéma, c'est qu'on peut passer d'un jour à un autre, d'aujourd'hui à hier ou à moi demain, mais on peut pas passer d'une nuit à l'autre. On est dans la même nuit. Ça, c'est aucun metteur en scène au monde, de ceux à qui j'en ai parlé, de Kurosawa à Vajda, n'a pu me répondre.
Et pourquoi d'ailleurs, tiens?
C'est un grand mystère. Si vous passez d'une scène qui se passe de nuit à une autre scène qui se passe de nuit, même si c'est 3 mois plus tard, vous êtes dans la même nuit. Ça, je vous laisse le soin d'y réfléchir. Moi, ça fait 60 ans que j'y réfléchis et je ne l'ai pas trouvé.
Alors cette année, Jean-Claude Carrière, le MoMA à New York vous a rendu hommage en tant que...
Oui, ça c'était incroyable. Oui.
En tant que scénariste. Alors, ils ont eu l'intelligence d'inclure dans les films que vous avez écrits avec les plus grands metteurs en scène toute la production pour la télé.
Y compris des films de télévision, bah oui. Desquels je suis très fier. D'avoir travaillé avec Maurice Felvic, qui était un très grand metteur en scène, avec Jean-Daniel Vérag et d'autres, Pierre Boutron. Et j'ai été très fier qu'ils prennent certains films de télévision. Ça, c'était très intelligent, parce que je n'ai absolument aucun mépris pour la télévision. C'est-à-dire, c'est une forme d'expression particulière.
Et donc différente du cinéma?
Différente, oui, parce que
elle
est vue par un immense public, et une fois. Il n'y aura pas de bouche à oreille. Comme il y a au cinéma, vous comprenez? Et ça, c'est très important, et en même temps, ça oblige à une certaine discipline, parce que les budgets sont moindres, donc il ne faut pas, par exemple, vous pouvez pas faire de scène extérieure, lui, à la télévision, ça coûte très cher, vous voyez? Il y a toute une série de disciplines qui sont absolument nécessaires.
C'est en train de changer, maintenant qu'on est en train de vivre l'âge d'or des séries?
Oui, l'âge d'or des séries, il ne faut jamais oublier que le cinéma a commencé par des séries. Les premiers films étaient des films qu'on allait voir. On allait voir un épisode chaque semaine dans le même cinéma. Donc ce n'est pas vraiment une nouveauté. La nouveauté, c'est Netflix, Disney Channel et un principe de production et de diffusion universel. C'est-à-dire qui passe sur toutes les chaînes de télévision abonnées au même moment. Ça, c'est assez nouveau. Et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, ça ne change rien à la qualité des films. Le film qui, l'année dernière, a eu le prix à Venise, Roma, le film mexicain, est un chef-d'œuvre. C'est un film magnifique. Donc ce n'est pas parce que on produit un film par Netflix qu'il faut le mépriser, au contraire. Je travaille en ce moment avec Louis Garrel. Nous avons un autre scénario qui est presque prêt et qu'il va peut-être tourner, si nous trouvons les conditions nécessaires, comme d'habitude, dans quelques temps. Et d'autres projets avec des metteurs en scène qui, malheureusement, je dirais, mais heureusement pour eux, sont tous beaucoup plus jeunes que moi. Et à moi, ça me fait très plaisir, parce que je sens qu'ils viennent chercher chez moi ce qu'ils appellent une expérience, qui est un mot dangereux, parce que l'expérience ne sert à rien. Chaque aventure est nouvelle. Il se pose forcément des problèmes que vous n'avez jamais rencontrés auparavant. Vous comprenez, c'est pas parce qu'on a dit « dans tel film j'ai fait comme ça » que je vais faire comme ça dans celui-ci. Au contraire, il faut au contraire s'efforcer, même à mon âge, de trouver des idées nouvelles. Oui.
Et ça, vous le racontez très bien dans ce livre qui vient de paraître chez Odile Jacob, Jean-Claude Carrière, Atelier. Oui, parce que votre vie d'écriture et de création concerne aussi bien le cinéma, le théâtre,
la télévision. Oui, comment on fait un film, comment on prépare et comment on écrit une pièce de théâtre, comme le Mahabharata, par exemple, avec Peter Brook. C'est ça le principe du mot atelier. Atelier, ça sent le rabot, ça sent la sciure, ça sent la scie. Vous voyez, il y a tout un travail presque artisanal. Quelquefois, on joue soi-même les scènes, forcément, avec le metteur en scène, avec Buñuel en face de moi. Pendant 20 ans, on jouait toutes les scènes. Et dans certains des films que nous avons fait ensemble, je reconnais dans le jeu de l'acteur Buñuel lui-même.
Vous allez donc à Amiens après cette émission pour parler de Buñuel. Qu'est-ce que vous allez raconter au public d'Amiens?
Je vais répondre à des questions, vous savez, parce que si on commence à faire un exposé, on est perdu. C'est-à-dire, il faut d'abord sentir ce de quoi la salle a envie et essayer d'y répondre.
Krásne vlasy máš, ona na to vole, proč je ne...
le twist des années 60, mais à Prague. Nous sommes avec Jean-Claude de Carrière ce matin dans le Réveil culturel de France Culture. Et après nous avoir parlé de Buñuel, d'ailleurs vous allez ensuite au Festival d'Amiens où on lui rend hommage, on va parler de cet autre ami que vous avez eu.
Hélas disparu.
Alors je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui sort aussi au cinéma, oui, en version restaurée, les films de jeunesse de Miloš Forman, c'est-à-dire les films qu'il a réalisés en Tchécoslovaquie, ça s'appelait encore comme ça à l'époque.
Ils sont des films magnifiques, parmi lesquels il y a un chef-d'œuvre absolu, c'est Au feu des pompiers.
En 67.
C'est un film que j'adore, oui.
Là, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est bien sûr Les Amours d'une blonde.
Vous savez que quand Miloš est venu à Paris pour la première fois, il habitait chez moi, il était évidemment fauché, il n'avait pas d'argent, c'était, on ne pouvait pas changer l'argent tchèque. Buñuel tournait Belle de jour. J'ai amené Miloš sur le plateau de Belle de jour à Joinville, et j'ai dit à Buñuel, je suis allé lui dire, il y a Miloš Forman qui est là. Mais qui ? Miloš Forman, les amours d'une blonde.
Ouais.
Je lui ai dit oui. Il a arrêté le tournage pendant une heure pour aller à la cafétéria avec Miloš et moi boire un café. Ça, Miloš, quand il le racontait, en pleurait de joie. C'était magnifique.
Et ces films, vous les aviez vus à l'époque
Oui, bien sûr. On connaissait les films de l'Est, on connaissait les films de Vaida, mm-hmm. et on connaissait les films de Miloš Forman. Et Ivan Passer, Éclairage intime, qui était un ami très cher et qui est, lui, encore vivant. Miloš, hélas, nous a quittés il y a 2 ans.
Audition, L'As de pique, Les Amours d'une blonde et Au feu les pompiers, donc ressortent en version restaurée. C'est des films qui ont été réalisés dans les années 60 dans son
Audition,
pays.
Audition, c'est le tout premier film.
Bien sûr. Oui. Vous allez travailler avec lui quelques années plus tard, dans les années 80.
Oui, à New York, à partir de Taking Off. Ensuite, nous avons un peu travaillé sur Air, mais ensuite, nous avons fait Valmont en France.
Bien sûr, c'est surtout Valmont.
Les fantômes de Goya, qui était un de ses derniers films. Mmh. Nous étions vraiment, je suis très ému parce que nous étions comme deux frères. Nous avons partagé, nous avions à peu près le même âge, nous avons partagé les mêmes épreuves en 68, quand la Tchécoslovaquie a été envahie par les troupes du pacte de Varsovie. Claude Berry, heureusement, nous a beaucoup aidés à l'époque avec Jean-Pierre Rassam. Mais j'ai connu Miloš hors du cinéma comme un ami très très proche et presque, je dirais même, comme un frère.
Comment on travaille avec Miloš Forman? Est-ce que c'est les mêmes méthodes, que ce soit Buñuel?
Non, les méthodes changent beaucoup, mais il y a toujours une part d'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part où le scénariste, qui explique au metteur en scène une idée qu'il vient d'avoir, doit la jouer, d'une certaine façon. Et ce qui est très intéressant avec Miloš, comme avec Buñuel, ce que je raconte dans Atelier, c'est que le metteur en scène choisit souvent le rôle de la jeune fille. C'est-à-dire que dans Valmont, par exemple, Miloš jouait Cécile de Volanges, la jeune fille. Comme s'il choisissait, dans Belle de jour, Buñuel jouait Belle de jour. Et moi, je jouais les clients. Comme si le metteur en scène choisissait le personnage le plus éloigné de lui-même, auquel il aura à donner vie, à un moment donné. Vous voyez, ça commence dès le début, ça commence dès ce moment-là. Et il y a des scènes qui sont quelquefois ultra comiques, bien entendu, entre nous. Quand j'appelle Buñuel ma petite chérie, etc. Vous voyez, mais il faut oublier tout ça. Il faut oublier cette pudeur. Il faut oublier cette mondanité superficielle. Et aller au fond des choses. Aller essayer de voir dans le cœur d'une jeune fille du XVIIIe siècle, pour Valmont.
Alors, qui a eu cette idée d'adapter Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos? Ça vient de Miloš Forman?
Ça vient de Miloš, oui. Ouais. Miloš avait lu Les Liaisons dangereuses en tchèque. Il l'a relu en anglais. Il y a deux versions en anglais, assez différentes l'une de l'autre.
Ah bon?
Et c'est lui qui m'a proposé de travailler avec lui. En même temps, Stéphane Frère faisait Les Liaisons dangereuses d'après la pièce de Christopher Hampton, nous sommes très amis, nous le connaissons très bien, qui est une adaptation tout à fait fidèle du livre. La nôtre, non. Nous nous sommes à plusieurs reprises écartés du livre pour essayer de donner au personnage autre chose qu'une perversité artificielle. Vous voyez, quand on a dit ce sont des pervers, on croit avoir tout dit. Non, il faut savoir pourquoi et comment. Donc nous avons développé certains personnages d'une autre manière.
Donc pour vous, adaptation, c'est création. Généralement on dit adaptation, trahison, mais vous, peut s'éloigner du livre.
On peut trahir, je crois même qu'il faut trahir. C'est-à-dire qu'aucun roman ne peut être adapté page après page. Un roman n'est pas fait, un scénario n'est pas écrit comme un roman et vice-versa. Donc il faut l'adaptation, ce qu'on appelle l'adaptation à un nouveau langage, je le répète, au langage du cinéma, est absolument indispensable.
Du coup, je voulais vous parler de l'adaptation d'une adaptation, parce que il n'y a pas seulement votre livre sur votre manière de travailler, d'écrire Atelier qui sort chez Odile Jacob qui fait votre actualité, Jean-Claude Carrière, il y a aussi le Mahabharata qui sort, et ça c'est...
En bande dessinée.
Oui. En bande dessinée, c'est-à-dire l'adaptation en bande dessinée de
oui,
l'adaptation
c'est plus
de
plus ou moins
ce...
l'adaptation théâtrale, mais avec le magnifique travail d'illustration de Jean-Marie Michaud. Il a mis 3 ans à faire ça. C'est un livre absolu que je trouve splendide. J'étais très très heureux. Il m'avait pas, j'étais pas tenu au courant des dessins. J'ai reçu un jour la maquette. J'ai été époustouflé.
Et ça sort chez Ozoni Éditions. Jean-Claude Carrière, ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma français, ça vous interpelle? Vous voulez vous exprimer? C'est-à-dire l'affaire Adèle Haenel?
Moi, je connais Polanski depuis très longtemps.
Roman Polanski.
Depuis très longtemps, c'est un ami, il est de ma génération. Nous n'avons jamais travaillé ensemble, mais nous le connaissons très bien. Et je suis absolument désolé de ce qui se passe. Je ne sais pas, c'est pas à moi de dire qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. D'un côté, les femmes ont raison d'élever la voix, de protester, de se faire entendre. Moi, j'ai toujours été de ce côté-là. Et inutile. De l'autre côté, je suis vraiment peiné de voir que le jour même de la sortie du film, il y a des manifestations pareilles alors que le film est très beau.
Jean-Claude Carrière, pour revenir sur Atelier, il y a tout un livre où vous expliquez comment vous travaillez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une méthode pour devenir scénariste?
Il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes, mais la première consiste à apprendre comment on fait un film. Moi, j'ai commencé mon travail dans le cinéma en étant perchman sur Le Soupirant, parce qu'on n'avait pas de quoi payer un perchman, donc je l'ai fait gratuitement. Mais en étant perchman sur un plateau pendant tout un tournage, vous apprenez beaucoup. Vous apprenez d'abord où sont les lumières, pour ne pas que l'ombre de la perche se reflète sur un des murs. Vous apprenez que vous pouvez donner l'avantage à tel ou tel acteur quand il parle. Vous apprenez énormément de choses. Ensuite, j'ai fait beaucoup de montage, comme je vous l'ai dit, et je demande toujours, maintenant encore, quand je travaille sur un film, de pouvoir participer au montage.
Et la technique de l'écriture, est-ce qu'elle dépend aussi de la culture du pays qui va produire cette œuvre théâtrale, cinématographique? Je veux dire par là, Jean-Claude Carrière, vous qui sillonnez le monde...
Le plus possible,
Vous êtes allé en Iran plusieurs fois, à Tel Aviv, aux États-Unis. Quand vous parlez aux gens, vous leur donnez la même méthode ou vous vous intégrer dans la culture du pays pour
non,
essayer...
Non, au contraire. Ouais. Il faut que, et ça je l'ai toujours dit, il faut qu'une œuvre vienne de quelque part si elle veut s'adresser à tous. Une œuvre conçue pour être universelle est un bide assuré.
Autrement posé la question,
regardez,
vous qui connaissez bien l'Inde et l'Iran, vous dites qu'il y a une manière spécifique pour chacun des deux pays de raconter une histoire?
Oui, absolument, absolument. Par exemple, les deux cultures sont très importantes l'une et l'autre, et l'Iran est un grand pays de cinéma, j'en reviens d'ailleurs, il y a quelques jours. Mais ce sont deux cultures. D'abord, les langues sont différentes, les histoires aussi, et le passé historique aussi. Il y a des points communs, bien entendu, mais il y a des points communs entre tous les peuples. Mais ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois que l'on entreprend un travail, que ce soit pour le théâtre ou pour le cinéma, il faut savoir quel langage on va utiliser. Il faut connaître ce langage. Et ça, c'est...
Et ça, c'est la culture ?
C'est la culture, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Excusez-moi de le dire, mais j'ai beaucoup travaillé dans ma vie.
Et vous avez pris du plaisir, non ?
Oui, oui, bien sûr.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Jean-Claude Carrière va partir donc maintenant à Amiens. On vous attend à Amiens pour parler de Bunel. Merci d'être venu ce matin pour nous parler aussi bien de Bunel que de Miloš Forman, mais aussi pour nous rappeler que vous publiez chez Odile Jacob Une vie d'écriture et de création, Atelier, c'est le titre de votre ouvrage, et je rappelle que le Mahabharata a été adapté en bande dessinée avec les dessins de Jean-Marie Michaud à partir de votre adaptation de ce long, de cette immense épopée indienne que vous avez d'abord.
Je me permets de vous féliciter pour votre prononciation parce que vous avez bien dit Mahabharata.
Voilà, comme quoi ça m'arrive. Tout arrive.
Les gens disent Matarabata, etc. J'ai tout entendu là-dessus.
Et comment on dit en farsi, bonne journée, vous qui maîtrisez plusieurs langues et qui revenez d'Iran?
Khodafes.
Répétez.
Rok Bulet Belam, Khodafes.
Oh ben non, je ne pourrais pas. Merci Jean-Claude Carrière d'être passé ce matin.